Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Un nouveau drame en mer Méditerranée s'est arrivé près des côtes libyennes. 10 hommes et une petite fille sont morts noyés en tentant de rejoindre l'Europe. Le premier avion français de personnes évacuées du Soudan est arrivé ce mercredi matin en France. La Chine, nouvel acteur politique au Moyen-Orient, illustration avec le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous l'égide de Pékin. Notre invité sera David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. La 6e conférence nationale du handicap, ce mercredi après-midi à l'Élysée. Elle a lieu tous les 3 ans. Il s'agissait de présenter le bilan des politiques publiques engagées pour les personnes en situation de handicap. Le collectif qui regroupe 52 associations a boycotté ce rendez-vous et déplore un manque de concertation. À l'occasion de cette conférence nationale, regard sur la fin d'une inégalité, les personnes aveugles peuvent acheter leurs livres en braille au même tarif que les éditions classiques. Nous y reviendrons avec Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles de France. La première ministre a présenté la feuille de route de son gouvernement pour les 100 prochains jours. Le projet de loi immigration n'y figure pas, faute de majorité pour le voter. Il est repoussé à l'automne prochain. Cet énième drame en mer Méditerranée, les gardes-côtes libyens ont récupéré les corps de 11 exilés morts noyés, 10 hommes et une petite fille. Leurs corps flottaient à quelques mètres du rivage de la ville de Garabouli, à 50 km à l'est de Tripoli. Les victimes étaient à bord d'une embarcation qui devait les emmener clandestinement vers l'Europe. Dans le bateau sinistré se trouvaient des Égyptiens, des Bangladais, des Pakistanais. D'après les passeports montrés par des rescapés, l'embarcation transportait environ 80 personnes. 45 ressortissants français et étrangers récemment évacués du Soudan ont atterri ce mercredi matin à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Parmi les passagers figuraient 195 Français, mais aussi des Italiens, des Marocains, des Soudanais, des Néerlandais. Le Soudan est le théâtre depuis 11 jours de sanglants combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdan Dagalo, qui commande les paramilitaires des forces de soutien rapide. Les combats ont fait plus de 459 morts et plus de 4000 blessés. Un cessez-le-feu de 72 heures conclu sous l'égide des États-Unis est entré dans son deuxième jour, mais des combats et des raids aériens se poursuivent à Khartoum. Regard sur l'influence chinoise au Moyen-Orient. La réussite de la médiation chinoise entre l'Iran et l'Arabie Saoudite illustre une nouvelle donne régionale. Nous y revenons avec David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. David Rigoulet-Rose.
Le regard de Pékin vers le Moyen-Orient, ça commence à se préciser à partir du début des années 2010. Il y a le premier document officiel de la doctrine politique de la Chine vis-à-vis de la région. Il se fait justement en 2013 dans le cadre du fameux projet de ceinture et la route, puisqu'évidemment, il y a la question d'abord de l'approvisionnement énergétique de la Chine. Évidemment, le Moyen-Orient est un acteur central en tant que fournisseur. Et puis c'est l'aboutissement, un des aboutissements de la route, hein, justement, la fameuse BRIE. Donc, ces éléments convergent pour pousser la Chine à avoir une attention beaucoup plus importante vis-à-vis de la région du Moyen-Orient. Et ça explique aussi effectivement l'importance accrue de la Chine dans la région, on l'a vu ces derniers mois.
Comment cela est-il perçu, notamment par les États-Unis?
À l'occasion du voyage de Xi Jinping en décembre dernier à Riyad, c'était justement la deuxième fois que le président chinois allait à Riyad depuis 2016, et les États-Unis ont pris acte d'une évolution, puisque le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a considéré à l'époque que c'était la plus grande activité diplomatique entre la Chine et le monde arabe, que c'était l'expression de cette activité. Et John Kirby, le porte-parole du Pentagone, a eu cette formulation. Nous sommes conscients de l'influence que la Chine veut gagner dans le monde entier, et notamment au Moyen-Orient. Et donc, les États-Unis ne demandent à aucun pays de choisir entre les États-Unis et la Chine, puisqu'effectivement, il y a bien une compétition stratégique. Donc, il y avait une prise en compte, une actualisation, d'une certaine manière, de l'évolution d'une situation qui se fait partiellement au détriment des États-Unis, même si les États-Unis restent encore, évidemment, très, très présents.
Cette offensive de la Chine au Proche et Moyen-Orient, quel impact cela pourrait-il avoir sur le conflit israélo-palestinien?
Sur le conflit israélo-palestinien, pour l'instant, pas une action particulière de la Chine, qui a pris soin, justement, de ne pas mettre le doigt dans l'engrenage, même si la Chine se présente de manière générale dans la région comme un pays responsable, une grande puissance maintenant avérée, responsable, qui a des potentialités pacificatrices, sous-entendu, en creux, par rapport à ce qui n'est pas le cas d'autres pays, vu de Pékin. En l'occurrence, les États-Unis, pour ne pas les nommer. Mais la Chine a pour l'instant a manifesté peu d'empressement quand même à mettre le doigt dans ce problème très très complexe du conflit israélo-palestinien, même si la Chine est présente au Proche-Orient et notamment en Israël, puisque en 2021, la société chinoise Shanghai International Port Group avait pris possession du terminal à conteneurs du port d'Haïfa. Donc il y a des relations avec Israël, ce qui d'ailleurs pose problème aux États-Unis. Il y a l'idée effectivement que toute cette région dans son ensemble est une région qui devient de plus en plus importante pour la Chine, même si la question spécifique du contrat et du conflit israélo-palestinien, pour l'instant, est laissée quand même de côté, avec en surplomb, on va dire, par rapport au positionnement chinois.
Ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, sous l'égide de Pékin, cela laisse-t-il un espoir d'une pacification au Yémen, le pays en proie à une guerre et une crise humanitaire?
Oui, c'est probablement un des attendus, effectivement, de l'accord en question, qui a été scellé officiellement effectivement à Pékin entre l'amiral iranien Ali Shamkhani et le conseiller à la sécurité nationale de Mohamed bin Salman, en l'occurrence Moussaïd bin Mohamed Al-Aïba. Donc c'était une consécration, on va dire, diplomatique pour le rôle chinois, en rappelant que initialement d'ailleurs les négociations n'avaient pas eu lieu sous la supervision chinoise. Elles avaient débuté en avril 21 à Bagdad. Elles s'étaient poursuivies assez largement à Mascate, donc suite à un domant, mais elles sont finalisées effectivement à Pékin, ce qui en soi est un marqueur fort, parce que ça témoigne du fait que Pékin se présente comme le pays qui a réussi, entre guillemets, ce qui paraissait impossible, à savoir de rapprocher deux adversaires, sinon ennemis, géopolitiques, en l'occurrence le Royaume sunni d'Arabie Saoudite et l'Iran chiite. Tout simplement parce que c'est une nécessité pour Pékin. Les deux pays, l'Arabie aujourd'hui est le premier fournisseur de pétrole de Pékin et l'Iran le deuxième, même si l'Iran est toujours sous sanction. L'Iran fournit également effectivement du pétrole en vertu d'un accord qui a été passé en mars 21 de partenariat stratégique. Il y a une forme de partenariat stratégique avec les deux pays et donc c'est un succès incontestablement de la diplomatie chinoise, même si tout n'est pas résolu. Alors en l'occurrence pour l'affaire du Yémen, c'est un des attendus parmi d'autres, puisque l'Iran se serait engagé à ne plus soutenir militairement la milice houthi. En tout cas, à faire que les bombardements, les frappes de drones et de missiles sur le royaume saoudien cessent, ce qui ne veut pas dire que les Iraniens n'ont pas un agenda régional par ailleurs. Mais en tout cas, c'est un des attendus pour Riyad, effectivement, dans le cadre de l'accord. Il y en a d'autres, vraisemblablement sur la Syrie, voire l'Irak.
David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS. La 6e conférence nationale du handicap, ce mercredi à l'Élysée, elle a lieu tous les 3 ans. Il s'agissait de présenter le bilan des politiques publiques engagées pour les personnes en situation de handicap. Le handicap concerne 12 millions de Français et 8 millions d'aidants. À l'occasion de cette conférence nationale du handicap, gros plan sur les personnes non-voyantes. Les personnes aveugles peuvent désormais payer leurs livres en braille au même prix que les éditions classiques. Le centre de transcription et d'édition en braille a décidé d'appliquer à son catalogue de plus de 2000 ouvrages le prix unique du livre dont l'édition classique bénéficiait, mesure dont se réjouit Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles de France. Entretien.
Pour la Fédération des aveugles de France, qui promeut la citoyenneté des personnes et leur autonomie, le braille nous apparaît comme indispensable à bien des égards, parce qu'il permet effectivement l'autonomie, alors l'autonomie face à la lecture, l'autonomie dans la vie du quotidien, par exemple pour lire une boîte de médicaments, l'autonomie professionnelle aussi, comment être un professionnel si on ne peut pas avoir accès à l'écrit et à la lecture dans ses documents professionnels. Donc c'est un élément d'autonomie et c'est un élément de citoyenneté aussi, puisque la lecture du braille, c'est d'abord et avant tout la question de la lecture et de l'écriture qui nous est commune à toutes et à tous. Et pour être un citoyen à part entière, il faut pouvoir avoir accès à ce mode de lecture et d'écriture qu'utilisent les personnes aveugles, c'est-à-dire le braille, comme une personne voyante, je dirais, a accès à la lecture et à l'écriture.
Au sein de la Fédération des aveugles de France, vous vous battez notamment pour accentuée pour renforcer l'accessibilité.
Absolument. De façon générale, oui. Hein. C'est à la fois l'accessibilité de tout ce qui est ouvrage et autres par rapport au braille, c'est l'accessibilité numérique aussi, parce qu'avec l'accessibilité numérique, on peut aussi avoir des écrits en braille. Hein. Le numérique ne s'oppose pas au braille de ce point de vue-là. Et puis, c'est toutes les questions de l'accessibilité plus largement au déplacement à la voirie. C'est l'accessibilité à la culture, au sport, à l'emploi, à la scolarité. On est vraiment à la fédération. L'idée, c'est notre slogan, c'est la citoyenneté, ça nous regarde. Et la citoyenneté, c'est du moment où on commence à vivre jusqu'au moment où on meurt. Et donc, tout le spectre de la vie, on essaye de se battre pour que les personnes aveugles et malvoyantes puissent être ou devenir, j'ai presque envie de dire devenir parfois, des citoyens à part entière.
Devenir, car il y a encore beaucoup de choses à faire.
Absolument, il y a encore énormément de choses à faire dans des tas de domaines parce que le nombre de déficients visuels, 2 millions de personnes, on estime à 2 millions de personnes, est un nombre important, mais pas forcément très important. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le nombre de déficients visuels va augmenter dans les années qui viennent du fait du vieillissement de la population, et il y a nécessité d'adapter tous les éléments de la vie à la déficience visuelle. Mais j'ai envie de dire que la fédération en fait une marque de fabrique. On n'est pas catégoriel à ce point. C'est-à-dire que ce qu'on dit aussi, c'est que quand on adapte des choses pour les déficients visuels, alors on favorise un mieux vivre ensemble, alors on favorise aussi une meilleure situation pour l'ensemble des personnes. Je vous donne un petit exemple, c'est par exemple dans les musées où on organise des visites tactiles sous bandeau. Eh bien, pour les personnes déficientes visuelles, évidemment, nous, on le réclame parce que c'est important de pouvoir toucher un certain nombre d'œuvres. Mais pour des personnes voyantes, eh bien, d'abord, on s'aperçoit que les personnes voyantes, elles aiment toucher comme nous. Elles en ont moins besoin, mais elles aiment toucher les œuvres. Et puis, par ailleurs, elles peuvent aussi donner leurs impressions de voyants, mais à qui on a temporairement bandé les yeux, pour leurs impressions sur les œuvres qu'elles découvrent. Donc, de ce point de vue-là, on est dans une démarche inclusive.
Et vous proposez également des formations au sein de la Fédération des aveugles de France.
Oui, on propose des formations parce qu'on est très soucieux de la qualité de l'accompagnement des personnes déficientes visuelles et aussi le fait de tenir compte de la spécificité des personnes déficientes visuelles. Donc, on a des formations autour de l'informatique adaptée, c'est-à-dire comment les personnes déficientes visuelles peuvent accéder aux outils informatiques. On a des formations autour de ce qu'on appelle les instructeurs d'autonomie des déficients visuels. Ça comprend en fait ce nouveau titre qui est déposé au registre national des compétences aujourd'hui. Ça comprend tout le travail autour du déplacement des personnes déficientes visuelles, ce qu'on appelle la locomotion, comment on se déplace avec la canne blanche notamment, mais comment aussi on se repère dans un carrefour, sur des voies routières, etc. pour se déplacer. Et puis ça comprend aussi toute l'aide à la vie journalière, comment on va organiser son logement, son espace de travail, son espace de cuisine, etc., pour que on arrive à se repérer convenablement et qu'on ait, je dirais, des outils, des techniques qui nous facilitent la vie et qui nous facilitent de ce fait-là l'autonomie.
Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles de France. La Première ministre a présenté la feuille de route de son gouvernement pour les 100 prochains jours. Elisabeth Borne a annoncé le remplacement de Pôle emploi par France Travail. Cette nouvelle institution doit permettre de réunir dans un seul organe l'insertion professionnelle, la recherche d'emploi et la formation, actuellement sous l'égide des régions. La chef du gouvernement a aussi annoncé le maintien du bouclier tarifaire sur l'électricité jusqu'à fin 2023. Elisabeth Borne a également annoncé que le soutien en français et en mathématiques dans les écoles primaires sera généralisé. Autre annonce de la Première ministre, le report, au moins à l'automne, du projet de loi immigration. Un report lié à l'absence de majorité au Parlement pour voter ce texte. Elisabeth Borne, pour qui ce n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser et le pays. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.